ערב טוב, שלום. אום וולה,
תמוד דיסידי.
לילה טוב, אלי. בוא. Alors là, nous sommes donc dans la Gemara, dans Sanhedrin, Tzaddik, Bet Amud Bet. Et on avait commencé à étudier le problème de savoir qui sont les morts qu'Ézéchiel a ressuscités, n'est-ce pas ? Je reprends ici. Ouais, c'est au milieu de la page, ça fait à la ligne. Il y a beaucoup de lignes à compter, attention. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà. La ligne 22. C'est bon ? Au milieu de la ligne. Au milieu de la ligne, il est écrit « Uman ninhu metim sheikhia yecheskel » Qui sont les morts qu'Ézéchiel a ressuscités ? Hein ? Qui sont-ils ? Et ça veut dire quoi, qui sont-ils ? En fait, la question, telle que j'ai pu l'interpréter, ça veut dire qu'on se demande quel est le type de personne qui va participer au retour d'Israël. Il faut un certain profil d'identité. Alors, quelle sorte de juif il y a lors de ce retour, puisqu'on a vu que les morts qu'Ézéchiel a ressuscités, ce n'est pas vraiment des morts, c'est le peuple juif qui revient en Eretz Israël. Donc, si on demande qui sont les juifs ressuscités, c'est donc qu'il y a un certain type d'identité qui doit participer au retour. Alors, quel est ce type ? Nous avons 5 réponses différentes. Ça veut donc dire qu'il y aura 5 types humains différents. Alors, la dernière fois, on avait étudié, je crois, un des types. On nous avait dit que c'était les Béné Ephraïm, n'est-ce pas ? Amar Rav, Elou Béné Ephraïm, Rav disait, ce sont les fils d'Ephraïm, chez Manou Laketz Vetao, qui ont compté, qui ont fait le calcul de la fin de l'exil et se sont trompés. Chez Nehemar, car il est dit, ובני אפרים, שוטלח וברד בנו ותחת בנו ולעדה בנו ותחת בנו וזלת בנו ושוטלח בנו ועזר ולעד והרגו מנשי גת ונולדים בארץ. C'est d'avis, c'est toute une liste des descendants d'Ephraïm qui ont été tués par les habitants de Gat qui étaient nés dans le pays. וכתיב, ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים. Et Ephraïm, leur père, fut endeuillé de nombreux jours. ויבואו אחיו לנחמו, et ses frères vinrent le consoler. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une tentative qui a échoué en son temps de faire avancer le temps de la Géoula par une entreprise militaire qui a échoué. Eh bien, cette entreprise militaire doit réussir. Elle doit réussir un jour, et ça sera les mêmes Béné Ephraïm qui vont revenir. Ça suppose que un des éléments de la Géoula, ce sont des hommes qui sont prêts à prendre les armes. C'est un chidouche, c'est-à-dire pendant tout le temps de notre exil, on n'a jamais vu un juif prendre une épée. Et puis, au XXe siècle, brusquement, il y a eu un renouveau d'une armée juive, et c'était donc le moment du retour. Voilà. Ça, c'est donc la première réponse que nous avons, et la deuxième, je crois qu'on avait commencé aussi à la voir, Amar, Shmuel Amar, Elou Bene Adam, Shekafru, Bitriyat Ametim, ce sont des hommes qui ont nié la résurrection des morts. Chez Nehemar, car il est dit, Vayomer Elai ben Adam, il me dit, fils de l'homme, Ha'atzamot ha'elle, ces ossements-là que tu vois, Kol bet Israël hema, c'est toute la maison d'Israël, Hinne omrim, voilà qu'ils disent, Yavshu atzmotenu, nos ossements sont desséchés, Ve'avda tikvatenu, notre espoir est perdu, Nixarnu lanu, c'en est fait de nous. Donc, il y a également un désespoir qui est nécessaire pour que la Géoula arrive. Effectivement, le désespoir en question, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est ce qui a amené certains juifs à tenter l'assimilation. C'est ça ? Il y a eu un grand mouvement d'assimilation, surtout à partir de l'émancipation. C'est-à-dire, à partir du moment où les goyim ont dit « Vous avez les mêmes droits que nous », eh bien, la tentation a été grande de se fondre dans la masse des nations. Et lorsque nous nous sommes fondus dans la masse des nations, C'est là que nous avons acquis les capacités de fonder un État. N'est-ce pas ? Parce qu'on ne peut pas fonder un État si on n'a pas l'expérience des sciences politiques. Or, les sciences politiques, on les apprend chez les Goyim. Et c'est comme ça que ça s'est fait lors, par exemple, de la sortie d'Égypte. Moshe a été apprendre Sciences Po chez Pharaon. Et de même, nous avons, lors de la sortie d'Europe, nous avons les fondateurs de l'État et ceux qui ont pensé à l'État, les précurseurs de l'État, ont été apprendre les sciences politiques chez les nations. N'est-ce pas ? Et c'est comme ça que l'État d'Israël a pu être fondé. Donc c'est le désespoir du retour qui a pu susciter l'apparition de forces de retour, justement. Là, le chidouche énorme qui s'est passé là. C'est-à-dire, il y a un grand principe, il y a un endroit dont on ne peut que remonter, c'est l'endroit le plus bas. C'est ça ? Ça, c'est un principe de Rabbi Nachman de Breslav. Le lieu le plus bas, c'est celui dont on ne peut que remonter. C'est donc optimiste. Là, nous arrivons à la troisième sorte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, dans la piscine. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans la piscine, vous pouvez faire l'expérience.
La preuve, ce sont les Russes qui sont venus les premiers en Israël, dès 1860 et tout, c'était des Russes qui étaient...
Oui, bah oui.
Qui, avec les pogroms et tout ça, c'est eux qui sont venus.
1880. Enfin... Ouais. Je ne me rappelle plus très bien, je n'y étais pas.
Allez. Okay.
אז גם הם יבואו, יש עוד קטגוריות.
לא,
לפי
שמוע, הוא רק
כאילו
מוסיף אותם,
כן, ודאי. או שהם דווקא אלה שמסוגלים לפעול את המהלך, זה מה שרוצה לומר. C'est évident qu'on peut amener d'autres juifs aussi, mais il y a ceux qui sont le moteur. Le moteur, ce sont les désespérés. Rabbi Yirmiya bar Abba Amar. Nous avons ici une troisième interprétation, celle de Rabbi Yirmiya bar Abba, qui disait Elu bene Adam she'en bahen lahluhit shel mitzvah. Ce sont des hommes qui n'ont pas la fraîcheur d'une mitzvah, l'humidité d'une mitzvah. D'où est-ce qu'il a tiré ça? She'ne'emar Ha'atzamot ha'yeveshot Shim'u devar Hashem. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire, quand on dit qu'ils n'ont pas l'humidité d'une mitzvah, qu'ils n'ont pas de mitzvot? Pas écrit. Ça veut dire qu'ils ont des mitzvot, mais ce sont des mitzvot desséchés. C'est-à-dire, vient un moment dans l'exil où la mitzvah continue à être accomplie, mais elle est vidée de sa substance. Elle est desséchée. C'est ça ? Le Zohar dit cela. Le Zohar dit que, à partir du moment où on se contente simplement de l'application technique, hein, ah ben c'est bien, non, c'est ça, c'est très bien, félicitations. Ouais. Le Zohar dit. À partir du moment. Vous n'êtes pas au Sheva Brachot de. Non ?
C'est ça.
Ah bon. Vous savez qui s'est marié la semaine dernière, Ethan, celui qui les amène à Sheva. Voilà, il s'est marié. Jeudi soir. Bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Froid ? Bon, on peut fermer les fenêtres. J'y vais moi. Bon, ça va. Bon, on peut continuer là ? Bon. Non, parce qu'après, vous avez quelque chose qui. Ça me gratte là. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on disait ? Oui. Il y a un moment. Le Zohar dit. Qu'il y a un moment où, quand l'accomplissement des mitzvot devient une pure technique, alors de cela on dit « azlu maim miniyam », c'est-à-dire « l'eau a disparu de la mer »,« ve nahar yeherav ve yavesh », et le fleuve s'assèche et se dessèche. « Yeherav ve yavesh ». Ça veut dire que lorsqu'il n'y a plus l'eau de la mer en question, il s'agit de la mer de la chokhma. La sagesse. la sagesse qui est censée alimenter l'accomplissement du mitzvot. Si cette sagesse a disparu, alors tout est desséché. Et donc, le retour d'Israël se fait lorsque il y a un dessèchement des mitzvot. Pourquoi ? Ben simplement parce qu'il faut renouveler, il faut réalimenter l'accomplissement des mitzvot. Or, pour réalimenter cet accomplissement, il faut le faire à la source des mitzvot. C'est où la source des mitzvot ? Ben, c'est en Eretz Israël, tout bête. Et donc, il faut revenir en Eretz Israël pour se régénérer de manière générale. Le Rav Kook enseigne ça souvent, que le sionisme laïque, celui des chilonim, c'est un espoir profondément caché de la neshama de retrouver l'accomplissement des mitzvot dans leur authenticité. Parce qu'effectivement, les mitzvot de la Torah ont été donnés pour être accomplis uniquement en Eretz Israël. On les accomplit bedi'avad aussi en Chutz La'aretz. Mais ça marche tant qu'elles sont vivantes. À partir du moment où elles sont desséchées, alors il faut revenir en Eretz Israël. C'est ça que dit Rabbi Yirmiya bar Abba quand il dit « Elu bene Adam she'en bahem lachluchit shel mitzvah ». Ce sont des hommes qui ont perdu la fraîcheur des mitzvot. Ils font les mitzvot, mais c'est desséché. Bah oui, c'est ça. Il n'y a plus d'études. Le seyag, il a un sens. Mais si on ne comprend pas le sens, eh bien, c'est desséché. Ça devient une pure technique. Par exemple, il y a un livre pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui est problématique sur le plan pédagogique. C'est le Kitsur Shulchan Aruch. Vous connaissez ce livre ? Le Kitsur Shulchan Aruch est un livre très important du point de vue de la halakha, mais il est dramatique sur le plan pédagogique. Pour une raison très simple. C'est qu'il y a une accumulation de dinim les uns après les autres, sans qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est l'essentiel. Et qu'est-ce qu'est l'auxiliaire ? Qui est-ce qu'est le subsidiaire même ? Tout est écrit comme ça, de manière complètement plate. Et donc, ce livre a été écrit par des Talmidei Chachamim et pour des Talmidei Chachamim. Mais à partir du moment où il est étudié par la masse, sans savoir l'origine des mitzvot et l'origine des dinim, ça devient très problématique. Ça contribue à ce dessèchement, effectivement. Donc, si vous voulez étudier un livre de Halakha, je ne vous recommande pas le Kitsur Shulchan Aruch. Alors, lequel ? Non, aucun. Aucun. La halakha, ça s'apprend chez un maître. Il faut avoir un maître, et alors on apprend la halakha. Mais par les livres, c'est une catastrophe. Bon. C'est pas que c'est pas vrai ce qui est écrit dans les livres, mais c'est pas comme ça qu'on étudie. Rabbi Yitzhak Nafra Amar. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les siyagim. Il faut les faire tous. Bon. Rabbi Yitzhak Nafra Amar. Là, nous avons une quatrième espèce. Elou Bene Adam. C'est grave ce qu'il dit là. Ce sont des hommes qui ont recouvert le sanctuaire de reptiles et d'abominations, enfin de bêtes abominables. Shkatsim urmasim, ce sont de la vermine, des trucs comme ça. Voilà, ils ont recouvert les murs du sanctuaire avec des insectes abominables. Des reptiles, chez Néhémar, ainsi qu'il est dit. Il y a un autre texte d'Ézéchiel dans lequel il dit « Va'avo va'ir'e, je suis venu et j'ai vu. Ve'ine, kol tavnit remes ou behema, sheket ve'chol gidule bet Israël, mechoke à la kir saviv. » J'ai vu qu'il y avait le dessin de tous les reptiles et de tous les animaux répugnants et toutes les abominations de la maison d'Israël inscrit sur le mur tout autour, Merhouke Alakir Saviv. Et quand Ézéchiel a eu cette vision du temple recouvert d'abominations, il a employé le mot Saviv. Urtiv Hatam, et il est dit là-bas à propos des ossements desséchés, Vehevirani Alem Saviv Saviv. Il m'a fait tourner autour d'eux tout autour. Donc le mot Saviv est employé par-ci et par-là. Ça veut donc dire que ce sont les mêmes. C'est quoi des hommes qui recouvrent le temple d'abominations ? Si quelqu'un veut faire des abominations, il peut les faire où il veut. Pourquoi dans le temple ? C'est-à-dire qu'il s'agit d'une abomination faite au nom du temple. C'est ça ? C'est-à-dire c'est au nom du temple qu'on va faire le mal. D'accord ? Donc il y a également cette catégorie-là. C'est-à-dire il y a des gens impossibles à l'époque de la Géoula, des gens qui, au nom des valeurs du Beth Amikdash, ben, vont faire de l'abomination. Alors là, vous êtes libre de choisir qui vous voulez pour introduire dans l'étiquette. Rabbi Yochanan Omer. Alors Rabbi Yochanan nous amène la cinquième interprétation qui est extrêmement intéressante. La quatrième, vous voulez que je traduise à nouveau? Bon, on va faire ça. Allez, Rabbi Yitzhak Nafra Amar. Rabbi Yitzhak Nafra disait Elou Bene Adam, ce sont des hommes, Shehipu, qui ont recouvert, et Taechal, le sanctuaire, Kulo, tout entier, Shekatsim Urmasim, d'abominations et de reptiles. C'est-à-dire des bêtes, quoi, horripilantes, quoi, hein, d'horreur. Chenehemar, car il est dit. Aujourd'hui, on ne fait pas des horreurs sur les murs, on met des horaires pour savoir à quelle heure c'est Shacharit. Ainsi qu'il est dit. Alors, d'où est-ce qu'ils ont été tirés? D'où est-ce qu'il a été tiré, Rabbi Yitzhak Nafra, que les hommes en question, ce sont ceux qui ont recouvert le temple de façon répugnante? Eh bien, il amène un autre verset d'Ézéchiel, où Ézéchiel a une vision effectivement de ce genre, où il voit le temple recouvert d'abominations. Et là-bas, dans le verset en question, il dit qu'il a vu tout cela s'avive tout autour. Or, le mot s'avive est employé également dans la vision des ossements desséchés. Donc, il y a ce qu'on appelle une gzera shava. Quand un même mot est employé dans deux versets différents, c'est qu'il y a un rapport entre les deux versets. Eh bien, le mot en question, c'est le mot s'avive, qui veut dire tout autour, et qui veut nous dire donc que les ossements qui ressuscitent à la fin de l'histoire, eh bien, ce sont ceux qui ont fait des abominations au nom du temple. Voilà. C'est clair, non? Bon, ben voilà. Maintenant, nous arrivons à la cinquième interprétation, qui, elle, est un peu plus, disons, compliquée. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan disait « Elu metim shebebikat Dura. » Ce sont les morts de la vallée de Dura. Voilà. Ce sont les morts de la vallée de Dura. C'est où ça, Doura? Vous savez pas où c'est Doura? Doura, c'est en Syrie du Nord. Il y avait une ville dans l'Antiquité qu'on appelait Europos, qui était là-bas, ce qui donnait le nom de la ville de Doura Europos. La ville de Doura Europos, on a trouvé là-bas, dans des fouilles archéologiques, une synagogue splendide du IIIe siècle, recouverte de fresques sur tous les murs. Très très beau. Et d'ailleurs, là-bas, il y a des dessins. C'est l'époque de la Guémara, hein. C'est une synagogue de l'époque de la Guémara. Et on voit comment est-ce qu'à l'époque de la Guémara, on représentait des personnages bibliques tels que Moshe Rabbeinu, Aaron, Avraham Avinu, etc. Il y a même un dessin du Beth Amikdash, il y a un dessin du Misbéach, etc. C'est des gens donc, qui vivaient assez proches de cette époque. Et il y a une reproduction intégrale de cette synagogue au Beth Atfutsot, au musée de la diaspora, si ça vous intéresse. Enfin, bon, ça n'a rien à voir, parce qu'on parle ici de l'époque d'Ézéchiel, ça se passe quelque chose comme 800 ans avant. D'accord? Non, 700 ans avant. Alors, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? C'est les morts en question qu'Ézéchiel ressuscite, ce sont les morts de la vallée de Doura. Comment est-ce qu'il y a eu des morts dans la vallée de Doura? Ve'amar Rabbi Yochanan. Là, on a une explication. Minehar Ashal ad Rabbat Bikat Doura. Depuis l'endroit qu'on appelle Nehar Ashal jusqu'à la grande ville de la vallée de Doura. Lorsque Nabucodonosor, le méchant, a exilé Israël, Ayubahen, il y avait parmi eux, parmi les exilés, Bahurim, des jeunes gens, Sheayu Meganin et Tahama Biyofian, qui enlaidissaient le soleil tellement ils étaient beaux. Ils étaient plus beaux que le soleil. Veayukas Diot Roototan. Et les Chaldéennes, les Babyloniennes, quoi, voyaient ces jeunes gens, les prisonniers. Veshofot Zavot, elles étaient ébranlées sexuellement. Amrou les Baaléennes, elles ont été le raconter à leur mari. Uvaaléennes, la Mélère. Et les maris ont été le raconter au roi. Tsiva Mélère Veharagoum. Et le roi a ordonné de les tuer. Ils les ont tués. Ve'adain ha'ushofot zavot. Et pourtant, leur ébranlement n'a pas cessé. Elles étaient très influentes. Tiva ha'meler, c'est-à-dire même les cadavres étaient beaux. Siva Amelech Urmasum, et le roi a ordonné de les écraser. Alors, c'est-à-dire que les corps, les cadavres des beaux jeunes gens d'Israël qui étaient plus beaux que le soleil ont été écrasés. Eh bien, ce sont ces morts-là qu'Ézéchiel a ressuscité. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il veut dire quelque chose de très important. C'est que un signe de l'exil, c'est la perte de la beauté physique. Quand on cesse d'être beau, c'est qu'on est en exil. Ah oui, là. Les Juifs, pendant l'histoire, on les a toujours représentés comme très moches, non? Très laids, comme ça. Ouais. Je vais raconter une histoire à propos de Rabbi Yochanan dans Maseret Brachot. Rabbi Yochanan avait un élève du nom de Rabbi Elazar, qui était malade. Et donc Rabbi Yochanan est venu lui rendre visite, Bikur Cholim. Et ils ont commencé à parler. Et puis, comme Rabbi Elazar était dans une maison sombre, il n'y avait pas de quoi éclairer la maison. Alors Rabbi Yochanan a relevé ses manches. Et les bras de Rabbi Yochanan étaient tellement beaux que la maison en a resplendi. Il y a eu de la lumière dans toute la maison. Et Rabbi Elazar s'est mis à pleurer. Rabbi Yochanan lui dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez étudié la Torah? Ne t'en fais pas, on dit, Echad amarbe, Echad amamit, ou vilvat shechaveni bo lashamayim. L'essentiel, ce n'est pas la quantité, c'est d'avoir le cœur orienté vers Dieu. Alors toi, tu l'avais. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas eu de richesse? Écoute, dans la vie, il faut savoir choisir. En adam ne'ene mishne shulchanot. On ne peut pas jouir de deux tables à la fois. Tu as choisi la Torah, tu n'étonnes pas que tu n'aies pas de richesse. Est-ce que c'est parce que tu as eu des malheurs? Rabbi Yochanan dit, moi aussi j'ai eu des malheurs. Il a perdu 10 enfants, Rabbi Yochanan. Et pourtant tu vois, donc j'ai eu des malheurs pires que les tiens, donc ce n'est pas la peine de pleurer. Rabbi Elazar lui dit, non, ce n'est pas à cause de ça. Je pleure pour autre chose, je pleure à cause de ta beauté qui un jour disparaîtra dans la poussière. Et alors Rabbi Yochanan a dit, c'est vrai, il y a de quoi pleurer, ils ont pleuré tous les deux ensemble. Voilà, c'est ce que dit la Guémara. Baruch Arval. Bon, et c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan pleure parce que sa beauté un jour se décomposera dans le sol? Alors, le Maharsha, là-bas, fait une remarque. Il faut comparer ce texte à un autre texte de Maseret Bava Metzia, Daf Pevav, je crois, dans lequel Rabbi Yochanan, on parle là-bas de la beauté de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était extrêmement beau. On dit que pour avoir une idée de la beauté de Rabbi Yochanan, il faut prendre une coupe d'argent qui vient de sortir de chez l'orfèvre. Il faut remplir cette coupe de grains de grenade, de graines de grenade, entourer le pourtour de pétales de rose, et mettre ça entre l'ombre et la lumière, là où il y a un rayon de soleil qui passe, et la lumière qui sort de cela, c'est un peu de la beauté de Rabbi Yochanan. Essayez, vous allez voir, c'est très joli. Ça fait comme ça, nature morte. Bon, alors, essayez. Et là-bas, la Guémara a dit que Rabbi Yochanan a dit, je suis le dernier des beaux hommes de Jérusalem.
Et même, il allait devant les mikvés.
Oui, t'as dit ça. Il y a beaucoup. Exactement. Il y a des tas d'histoires absolument incroyables avec la beauté de Rabbi Yochanan. Enfin, en tout cas, et Rabbi Yochanan, quand il parlait donc de sa beauté, il voulait dire qu'il était le résidu de ce qu'avait été le peuple juif à l'époque de sa grandeur. À l'époque où nous étions sur notre terre, nous avions notre temple, notre pays, etc., les juifs étaient beaux. Le dernier représentant de ce type de juif, c'était Rabbi Yochanan. Et donc, le jour où Rabbi Yochanan meurt, eh bien, l'exil est total. Et c'est pour ça qu'ils ont pleuré. C'est que c'est un vrai exil. Voyez-vous. Et donc, ce que dit Rabbi Yochanan, le signe du retour véritable, c'est quand la beauté des enfants d'Israël revient. Et je ne sais pas, vous avez remarqué, les enfants israéliens sont splendides. C'est vrai, hein? Ils sont très beaux, hein, les enfants israéliens. Ben, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, la beauté est revenue. N'est-ce pas? Ah oui, par de la beauté physique. Mais la beauté physique, elle est l'expression de quelque chose de très profond. C'est-à-dire, par exemple, la Torah nous raconte de plusieurs tzadikim, de tzadikot, qu'ils étaient beaux. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte ça, par exemple, de Sarah, de Rivka, de Yosef? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'ils étaient beaux? Ben pour savoir que c'était des vrais tzadikim. Parce que comme c'était des vrais tzadikim, ce qu'il y avait à l'intérieur, la beauté intérieure, s'exprimait également à l'extérieur. Mais ça, c'était vrai à l'époque antérieure à la destruction du temple. Parce qu'à cette époque-là, on peut dire les canalisations spirituelles étaient encore intactes. Mais depuis la destruction du Beth-Amigdash, toute la tuyauterie s'est effondrée. Alors maintenant, on ne peut plus savoir. On peut être beau et méchant, et on peut être laid et tzadique. D'accord ? C'est quelque chose qui a disparu avec la destruction du Beth-Amigdash, mais qui était encore vrai à l'époque même du Bayit Sheni, et même jusqu'au temps de Rabbi Yochanan, qui était encore le dernier représentant de ce type de personnes. D'accord ? Et donc, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire une beauté physique qui est l'expression de quelque chose de très profond, d'un retour de la Neshama, de l'harmonie entre la vie intérieure et la vie extérieure.
Voilà. Oui, mais alors, tout le monde parle des Grecs qui étaient très beaux, etc.
Oui, mais c'était des Grecs. C'est-à-dire, la beauté grecque, justement, c'est quoi ? Vous avez déjà vu des statues grecques, vous ? Vous avez dû en voir, hein ? Bon. Il y a quelque chose d'extrêmement surprenant dans les statues grecques. Il n'y a pas de lumière dans les yeux. Il n'y a pas de regard. C'est-à-dire, c'est une volonté d'exprimer l'écorce, l'extérieur. Par contre, si vous regardez les statues égyptiennes de l'Antiquité, là, ces statues qu'ont dû confronter nos ancêtres quand ils étaient en Égypte, vous voyez qu'il y a une puissance de vie très forte là-bas. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est telle que nous la connaissons, telle que nous, c'est la beauté physique telle qu'elle est envisagée par Israël. Par exemple, le Beth Amikdash est appelé Noyo Shel Olam, la beauté du monde. C'est-à-dire que dans une situation normale, le beau est l'expression du vrai. Là où il y a la Kedusha, il y a de la beauté. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, vous connaissez cette institution extraordinaire qu'on appelle le Stibler ? Hein ? C'est toujours moche. Vous savez pourquoi ? Non, c'est vrai, hein, toujours moche. Mais il y a une raison à cela, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, c'est pas parce que, par exemple, la communauté n'a pas d'argent, alors donc c'est moche. Pas du tout que ça. C'est à dessein. Il y a une intention, on ne s'est pas toujours exprimé de cette manière, mais il y a une sorte de mépris du Olam Hazé, qui vient justement du fait qu'on est conscient qu'on est en galoute. Comme on est en galoute, on va quand même pas investir dans le beau. Ça va nous mêler au goyim. Et d'ailleurs, on voit très bien, dès que les communautés ont eu tendance à magnifier leur Bate Knesset, très rapidement, c'est devenu des assimilés. Par exemple, en Italie, par exemple, là où il y a les plus belles synagogues du monde, eh bien, c'est là que les communautés se sont le plus assimilées. D'accord ? Vous voyez, c'est souvent comme ça. Et donc, il y a toujours une réticence chez les Juifs par rapport à l'esthétique. D'accord ? Et ça, c'est vrai pendant le temps de la Galoute. Il y a même des règles, d'ailleurs, à ce propos, ce qu'on appelle des règles de respect de l'environnement, d'écologie, si vous voulez. Dans la Mishnah, par exemple, il y a des lois qui nous disent où est-ce qu'il faut mettre le cimetière par rapport à la ville. Alors, il faut mettre le cimetière du côté est. D'ailleurs, c'est comme ça à Jérusalem. Et puis, où est-ce qu'il faut mettre la décharge publique ? La décharge, il faut la mettre au nord, parce que le vent qui vient de la mer, va emporter les odeurs au loin. Et puis, les arbres, il faut les planter à une distance de 50 amas, 50 coudées de la muraille. Pourquoi ? Pour que la muraille soit belle. Et puis qu'elle ne soit pas atteinte par les racines de l'arbre. Donc, tout ça, c'est pour ce qu'on appelle Noya Shelahir, la beauté de la ville. Alors, les commentateurs, Loran, par exemple, dit que ces règles-là ne sont valables qu'en Eretz Israël. Et il y a des, je crois, de Khatam Sofer qui a dit, pour ce qui est de Chutz La'aretz, Alvay vetit navel beinei yoshvea, pourvu qu'elle soit laide aux yeux de ses habitants. C'est-à-dire pour qu'on ne prenne pas racine là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait des familles au Maroc qui ne portaient pas de vert, la couleur verte. C'est vrai, hein, vous connaissez ça ? Vous savez pourquoi ? Non, c'est pas la vraie raison. La raison véritable est tout à fait différente. C'est parce que le vert, c'est l'enracinement. C'est les plantes. Et d'ailleurs, il y en a qui ne plantaient pas d'arbres au Maroc. Pour la même raison. Parce que quand on plante un arbre quelque part, on est attaché à l'endroit. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, disait Georges Brassens. Et donc on ne veut pas s'enraciner là-bas. Et d'ailleurs, il y a une remarque du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui dit que même en Eretz Israël, ces règles n'ont pas cours tant que nous n'avons pas retrouvé Eretz Israël entre nos mains. Tant que nous n'avons pas Eretz Israël entre nos mains. Ce qui vous explique que, par exemple, dans certains quartiers de Jérusalem, où l'on considère que nous sommes encore en exil, eh bien, la voie publique n'est pas belle. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire des choses bien, c'est à dessein, c'est exprès. Il y a une sorte de mépris de la vie extérieure, parce que ce n'est pas à nous. Pas à nous, ça. Bon, on ne va pas investir là-dedans. Oui. Et donc, c'est ça que dit Rabbi Yochanan. C'est intéressant, il y a une petite remarque de la Gemara à propos de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, qui était un grand tzaddik, qu'on a rencontré plus tôt, d'ailleurs il y a quelques pages avant, il était très laid. C'était un tzaddik, mais extrêmement laid. À tel point que la fille de l'empereur, celle qui lui a posé des questions la dernière fois, a dit, mais comment est-ce que tu as une sagesse aussi belle dans un récipient aussi laid? Il lui a dit, ben, c'est comme le vin. Le vin, quand on le met dans des cruches de terre cuite, il est bien conservé. Si on le met dans des cruches d'or, il s'abîme. Donc, alors la Gemara pose immédiatement la question, mais comment est-ce que Rabbi Yehoshua peut dire une chose pareille alors que nous avons vu qu'il y a des Talmidei Chachamim qui sont beaux? Réponse de la Gemara, s'ils étaient laids, ils seraient encore plus Chachamim. Pourquoi? Parce que la laideur, justement, sépare l'homme du monde. Donc, il se concentre sur sa sagesse, et donc, il devient un vrai tétracham. Mais tout ça, c'est vrai, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pendant l'exil. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Donc, la beauté d'Israël doit revenir avec le retour en Eretz Israël. Voilà. Tanu Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné. C'est dans les lignes larges à la ligne 4. Vous y êtes? Très bien. Bécha'a, Shehipil, Nebuchadnezzar, Aracha, et Hanania, Mishael, Va'azaria, Lakifshan, les Kifshanaesh. C'est très intéressant de voir. Bon, vous connaissez cet épisode dans le livre de Daniel. On raconte que le roi Nabucodonosor a fait une statue à laquelle il a. Dont il a ordonné. Non. Où il a. Oui, non, pas la même chose. Il y a aussi un rêve où il voit une statue, mais à part ça, il a fait une statue, une vraie statue, et il a ordonné de se prosterner devant cette statue. Il a ordonné de rendre ce culte, mais ça, c'était pour tous les peuples de son empire. Tous les peuples devaient se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, et les Juifs aussi se sont prosternés, sauf trois. C'était Hanania, Michaël et Azaria, qui étaient des princes de Juda, qui étaient à la cour du roi, et qui ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nabucodonosor. Nabucodonosor, très en colère, décrète de les jeter dans la fournaise. Il les jette dans la fournaise, et ils sortent vivants. Même miracle que pour Abraham Avinu, ça s'est passé aussi avec eux. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que la Guémara explique que c'est à ce moment-là même où ça s'est passé qu'Ézéchiel a ressuscité les morts. Vous allez voir ça tout de suite. Bécha'a, Shehipil, Nebuchadnezzar, Harasha, et Hanania, Michel, Va'azaria, les Kifshanaesh. C'est au moment où Hanania, Michel et Azaria ont été jetés par Nabucodonosor dans la fournaise. Amarlo, Akadosh, Baruchou, les Chezkel, que Dieu a dit à Ézéchiel, l'Ech, Ve'achaye, Metim, Bebika, Dura, va ressusciter les morts dans la vallée de Dura. Si vous réfléchissez bien, c'est terrible. Ça veut dire que c'est au moment où l'on brûle des Juifs que le retour d'Israël se fait. Qu'est-ce qui est écrit? Au même moment. C'est-à-dire au moment qui est le pire moment de l'exil, parce que les trois derniers qui étaient encore fidèles au monothéisme et qui ont refusé de se brosser devant les idoles, c'était Hanania, Michaël et Azaria. Et donc en les jetant dans la fournaise, c'était le moment donc d'en finir totalement. Au moment où ça va le plus mal, c'est le moment où ça recommence. N'est-ce pas? C'est le principe de la Géoula, vous connaissez ça. D'accord? Serait-ce un signe des temps? En tout cas, bon, c'est ça qui est dit là. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un peu l'idée de la graine qui disparaît dans le sol pour renaître sous forme d'un nouvel arbre. Et quand on plante un grain dans le sol, il disparaît, il se pourrit, etc. Et c'est là qu'il va donner naissance à une nouvelle plante. Et bien, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. D'accord ? Et pourquoi ça se passe justement à Babylone ? Parce que Babylone, c'est le lieu justement où Abraham était déjà né. Et donc, ça recommence là-bas. C'est un nouveau recommencement. Kevan Shehaya Otam, et lorsqu'il les a ressuscités, Baou Atsamot Vetafrulo Leoto Racha Alpanav. Les ossements sont venus frapper le visage de ce méchant-là. Ah bon ? Qu'est-ce que faisaient les ossements en question ? Il n'est pas impossible, ce que ça suppose, c'est qu'il y avait des ossements des Hébreux dans le palais de Nabucodonosor. Qu'est-ce que faisaient ces ossements là-bas ? Ben, vous savez qu'il y avait une coutume chez les anciens, c'était de boire dans le crâne de ses ennemis. Hein ? On se servait de ça. C'était une coutume antique, par exemple observée par les Gaulois. Les Gaulois, en général, avaient une collection de crânes, chacun, qu'ils attachaient au cou de leurs chevaux. Ça faisait partie des trophées de l'époque. Bon, c'est pas la pire des choses. Il y a des choses encore plus pires chez les Gaulois. Vous savez que les Gaulois faisaient des sacrifices humains. Oui. Ils faisaient des sacrifices humains. Bon, ça ressemble pas tellement à ce qu'on connaît, n'est-ce pas ? Ben voilà, ben c'est comme ça. En tout cas, Baou Atamot, Vetafrulo Leoto Racha Alpanav, les ossements ont frappé le visage de Nebuchadnezzar. Amar, Mativan Chedelo, il a dit qu'est-ce que c'est cette histoire ? Amroulo, on lui a dit, Haverehen Chedelo, Mechaye Metim Bebikat Dura. L'ami de ceux-là ressuscite les morts dans la vallée de Dura. Patar Ve'amar, et c'est alors qu'il a ouvert sa bouche pour dire, Atohi, Kemar Avrevin, Vetimohi, Kemar Takifin, Malchute, Malchut Alam, Vesholtane, Aimdar Vedar. Vous avez compris ? Bon, je reprends. Il a dit une phrase qu'on voit dans le livre de Daniel, c'est une phrase prononcée par le roi Nebuchadnezzar, Atohi, Kemar Avrevin, ces signes, les signes de Dieu, combien sont-ils grands ? Vetimohi, et ces miracles, Kama takifin, combien sont-ils forts? Malchute, malchut alam, son empire est un empire éternel. Vesholtane, sa puissance, imdar vedar, et de génération en génération. Voilà, c'est donc Nebuchadnezzar, le grand ennemi d'Israël, en épave de la résurrection des ossements par Ézéchiel. Ça veut dire que une des conséquences de la Géoula, c'est la louange des nations pour le Dieu d'Israël. Je vais raconter une petite histoire, j'ai lu ça dans le livre qui vient de sortir sur le Rav Mordechai Eliyahu. Vous avez vu ce livre-là ? Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Doresh Tov Lehamo, qui a été écrit par son secrétaire, le Rav Zafrani. Vous avez vu ce livre ? Personne n'a vu ce livre ? Ah ben c'est dommage. Eh bien là-bas, il y a une histoire, il raconte que lorsque le Rav Eliyahu a été voir Jonathan Pollard dans sa prison aux États-Unis, alors c'était l'une des prisons les plus gardées des États-Unis, il faut passer par 7 ou 8 portes différentes qui à chaque fois s'est fermée à clé, l'autre s'ouvre que lorsque la première se ferme, etc. Il y a des contrôles, à chaque fois il y a un contrôle électronique, ça c'est incroyable. Bon. Alors évidemment, avant de passer par le contrôle électronique, il faut enlever ses clés, sa montre, son stylo, même une épingle, tout ça c'est repéré tout de suite. Et puis le Rav Eliyahu passe avec son vêtement plein d'or, son stylo, ses lunettes, etc. Rien, aucun bruit. Alors très poliment on lui dit, bon écoutez Claude Arav, mais c'est probablement que la machine n'a pas marché, on va voir, on va remettre au point si vous voulez bien repasser, etc. Il repasse, il se passe rien. Alors, et comme ça à chacune des portes. Alors, un des gardiens là-bas s'est mis à chanter. Alors, le Rav Zafrani dit, pourquoi est-ce que tu chantes ? Il dit, parce que j'ai vu dans la Bible que lorsqu'il y a un miracle, il faut faire un cantique. Alors, il a raison. Ben, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que quand il se passe un miracle, quand il se passe, bon, surtout le miracle du retour d'Israël sur sa terre, c'est quand même plus grand que de passer par une porte électronique, sans faire de bruit, eh bien, les goyim récitent une louange. Alors, est-ce que nous sommes contents de cette louange ou pas? De certaines manières, oui, de certaines manières, non. Nous sommes contents pour Akadosh Baruch Hu. Enfin, il est loué par ses créatures. Mais ça pose un problème, parce que ça nous met, nous, en accusation. Imaginez que les goyim disent « Dieu est grand, puisqu'il a fait l'État d'Israël. » Et que les habitants de l'État d'Israël, eux-mêmes, ils s'en fichent pas mal. Ça pose un problème. Alors, regardez ce que dit la Guémara à ce propos. « Amar Rabbi Yitzhak. » Rabbi Yitzhak disait « Pardon. » Yutak zahav roteach les torpives chez l'autoracha, que soit versé de l'or brûlant dans la bouche de ce méchant. Chez ilmale ba malach ustaro alpiv, car si un ange n'était pas venu pour lui fermer la bouche, bikesh les ganot kol shirot vetishbachot shamar David besefer teilim, il aurait déprécié toutes les louanges et tous les cantiques que David a dit dans le livre de Teilim. On n'est pas content de ce qu'un roi dise des louanges qui sont plus belles que les louanges d'Israël. Effectivement, ça pose un problème, ça nous met en accusation. Oui ?
Ça n'empêche pas le peuple d'Israël de reconnaître d'avoir sa louange
sous le trône ? Qu'il la dise d'abord. Mais justement, il ne le disait pas. C'est à l'époque, qu'est-ce qu'on fait des Juifs ? Ils se prosternaient devant l'idole du roi et le roi lui-même loue le Dieu d'Israël. Il y a ici un décalage assez grave. C'est-à-dire, lui, il s'est laissé impressionner justement par le miracle, tandis que les Juifs, eux, ils sont partis en exil et se prosternent devant l'idole. Ce qui est une catastrophe, c'est un Chilul Hashem gigantesque. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak dit que de l'or brûlant soit déversé dans sa bouche. Oui ? Eh bien, c'est quoi le malheur qui lui ferme la bouche ? C'est un malheur nationaliste. Il y a des anges comme ça qui sont favorables à Israël. Alors, ils viennent, ça ne peut pas être Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que Akadosh Baruch Hu, il est content de tout le monde. D'accord ? Mais il faut quand même préserver les intérêts du peuple juif. Alors, quelqu'un va fermer la bouche. Quoi ? Ah ben sinon, ça aurait été très grave, ça aurait voulu dire que la Shekhina aurait continué à résider dans le palais de Nebuchadnezzar au lieu de nous ramener en Eretz Israël. Bien sûr, de manière générale, évidemment, l'intérêt des Juifs n'est pas simplement un intérêt purement nationaliste étroit. Ça a une finalité, finalement, pour l'humanité. Que sans ça, le Nebuchadnezzar aurait eu un mérite. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand Moshe Rabbeinu entre en conflit avec Datan et Aviram, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, « Altefen el minhatam, ne va pas, ne reçois pas leur offrande. » Et pourquoi est-ce que Moshe a besoin de dire ça? Datan et Aviram sont des Rechaïm. Donc on n'a pas besoin de dire à Kadosh Baruch Hu de ne pas les agréer. Ben, ça veut dire que l'offrande d'un rachat peut être agréée parfois, parce qu'il y a un mérite quand même quelque part. Et donc ce mérite peut être grossi à la lunette. Et donc on a besoin de l'intervention de la prière de Moshe pour que cette prière ne soit pas, pour que leur offrande ne soit pas reçue.
Hein?
Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toujours l'homme qui est un élément dans tout ça. C'est comme par exemple l'histoire du mauvais œil. Pourquoi est-ce que le mauvais œil, ça marche? Parce que c'est de la jalousie. C'est une plainte. C'est-à-dire, comment lui, il a eu et pas moi? Et donc, il y a une souffrance qui vient du fait que l'autre a et moi, je n'ai pas. C'est mon envie qui est une souffrance. Mais Akadosh Baruch Hu me dit, mais enfin, c'est vrai que tu es envieux, mais c'est pas à cause de ça que tu vas mériter. Mais tu vas quand même mériter que l'autre n'est pas. Ah oui, c'est pour ça que le mauvais œil, ça marche. Ah oui, c'est le type qui va voir le spécialiste du mauvais œil. Il dit, est-ce que tu veux pas aller regarder un peu le champ de mon voisin. Qui c'est ton voisin? Ben, ton voisin, ben, moi, c'est celui-là qui est là-bas sur la montagne, là-bas, sur la colline. Ah oui, vous soyez sur la colline, entre les deux arbres là-bas. Quoi, tu vois si bien, toi? Et alors, il devient aveugle. C'est une vanne. Bon. Oui? Tanu Rabbana. Nos sages ont enseigné. Shisha Nissim Naasu Boto Yom. Six miracles ont été faits ce jour-là. C'est-à-dire le jour où Ézéchiel a ressuscité les morts et où Hanania, Michel et Azaria sont sortis de la fournaise. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est un retardement, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est le principe de Torah Delay. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. Shisha Nissim Nasu Beotoyom. Six miracles ont eu lieu ce jour-là. Ve'eluen, les voici. Tzaf Akivshan, Venifratz Akivshan, Ve'u Maksudo, Ve'nefar Telem Alpanav, Ve'nisrefu Arba Malchuyot, Ve'echia Yechezkel et Amitim Bebikat Dura. Bon, Tzaf Akivshan, ça veut dire la fournaise a surnagé. Une fournaise, vous savez comment c'est? C'est un creux que l'on fait dans la terre, et c'est là-bas qu'on fait brûler des choses, n'est-ce pas? Eh bien, pour que le miracle soit apparent, soit évident, eh bien, la fournaise est sortie de terre. Tzaf Akivshan. Ve Nifrat Akivshan. À part ça, elle a été éventrée, la fournaise. La fournaise s'est ouverte. Ve Hummak Sudo. Et la chaux de la fournaise a fondu. Venehefar Tselem Alpanav, la statue du roi Nabucodonosor est tombée sur son visage. Venisrefu Arba Malchuyot, et quatre représentants de royaumes ont été brûlés. Vehia Yechezkel et Amitim Bebikat Dura, et Ézéchiel a ressuscité les morts dans la vallée de Dura. D'accord? Vechulhu Gemara, et toutes ces choses-là, nous le savons par tradition. Verba Malchuyot Kera. Mais les quatre royaumes, c'est écrit en toutes lettres. Dirtiv, car il est dit. Unvuchadnezzar Malka, le roi Nabucodonosor, Shalach le Michnash, a envoyé réunir Lehashdar Panaya, Sganaya, Upahvata, Iddargazaria, Gidbaria, Détabraya Daftaya, Vechol Chitone Medinata. Je traduis. Le roi Nabucodonosor a envoyé chercher tous les Ahashdar Panaya, c'est les satrapes. Ouais, les satrapes. Sganaya, ce sont les Sganim. Parvata, ce sont les Pachas. Idrgazaya, Gidbaria, Daftaya, Tafaya, etc. Bon, c'est toutes sortes de préposés, enfin de fonctionnaires, des fonctionnaires de l'État. Urtiv, Itaï Gouvrin Yudaïn, amenait les hommes juifs pour les jeter dans la fournaise. Urtiv, Umit Kanchin, après cette histoire du miracle, il écrit, se sont réunis Arjar Panayas, Ganaya, Parvata, Vadavre Malka, Hazian et Gevraya Hiler. Et donc, on voit qu'il y en a quatre qui ont disparu de la liste, et donc ils ont été brûlés par la fournaise. D'accord? Ils étaient trop proches, ils ont été brûlés par la fournaise. Alors, c'est quoi cette histoire de six miracles? D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut six miracles à la fois? Ben, six, c'est toutes les directions possibles. Dans un monde à trois dimensions, il y a devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça veut dire que c'est un miracle. C'est, si un miracle se passe, il se passe dans toutes les dimensions. Donc il y a forcément six. Et quand vous avez un miracle, vous avez toujours six miracles à la fois. Pourquoi pas sept? Parce que c'est en exil. C'est-à-dire, dans un monde parfait, il y a un centre aux sept directions. Ça fait sept. Aux six directions, ça fait donc sept. Mais là, ça se passe en dehors du coup. Donc il y a seulement six miracles. Et les six miracles ont des conséquences un peu partout. Il y a des conséquences au niveau physique, puisqu'il y a eu un miracle dans la fournaise. Il y a des conséquences au niveau national, puisqu'il y a eu la résurrection des morts. Et il y a des conséquences au niveau universel, puisque des empires ont été brûlés. Ça, ça se passe toujours de cette manière. C'est-à-dire, quand un miracle est vraiment sérieux, alors il a des conséquences dans toutes les dimensions. On raconte qu'il y avait, en Lituanie, au XIXe siècle, il y a eu un faux messie. Il y avait un faux messie, bon, de temps en temps, il y avait des faux messies un peu partout. Alors, il y a un type qui se faisait passer pour le Mashiach, et un fonctionnaire russe a demandé à Rabbi Chaim de Volozhin, « Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, toi, du messie, du type qui se prétend être le messie ?» Rabbi Chaim de Volozhin lui dit, « Qu'est-ce que toi, tu en penses ?» Alors, le fonctionnaire russe lui dit, « Moi, ça ne me concerne pas, c'est une histoire des Juifs. » Il dit, « quand ça sera vraiment le Mashiach, ça te concernera toi aussi. » Tu seras concerné. C'est ça. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est, tout le monde est concerné par ça. Les Rabba Malchouyot, eh bien, c'est quatre de la liste qu'on ne retrouve pas dans le deuxième verset. C'est l'Igdarga Zayat, Gadbaria, Tetparia, Tafreya. Les quatre qui ont disparu. C'est probablement de la classe dirigeante de ces royaumes-là. Nabucodonosor avait un empire. Dans son empire, il y avait plusieurs peuples. Non, c'est pas les Arba Malchouyot dont on parle. Non, ce sont quatre royaumes, l'Idgar Badaria qui était dans le coin là. Les Arumbayas, vous savez, c'est les Arumbayas. Bon. Quoi? Hein? C'est ça. Et voilà, bon. Tané Debe Rabbi Eliezer. Tané Debe Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On enseignait chez Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Afilo Bishat Asakana, Lo Yeshane Adam et Atzmo, Mina Rabbanu Tchelo. Même lorsqu'on est en danger, il ne faut pas changer sa dignité. Rabbanout, ça veut dire sa dignité, dans ce cas précis. Chez Nehemar, car il est dit, Bedaïn Gouvraya Hiler, ce fut lorsque on a jeté ces hommes-là, Kfatou, attaché, Besarbaltehon, Patchehon, Vikarbaltehon. On parle ici de Hanania, Michel et Azaria, qui étaient avec leurs vêtements, leurs manteaux, leurs turbans et tout le reste. D'accord ? C'est-à-dire que même lorsque l'on est dans une situation dramatique, on risque sa vie, il faut garder sa dignité. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que quand ils ont été jetés, ils étaient bien habillés, quoi. Ils étaient bien avec leur cravate, tout ça. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que pour traverser l'histoire, même quand il y a des moments de danger, il faut être conscient de ce que l'on dépasse la conjoncture locale. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est actuellement en danger, on va être brûlé dans la fournaise. Mais on appartient à une histoire beaucoup plus digne. Et donc cette dignité ne disparaît jamais. C'est ça qu'ont exprimé Hanania, Michel et Azaria, qui ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir ou pas. Quand ils ont été jetés dans la fournaise, ils pensaient qu'ils allaient peut-être être brûlés. N'est-ce pas? Amar Rabbi Yochanan. Tout ça, c'est des enseignements qui correspondent au comportement pendant la galoute, le miracle pendant la galoute, la dignité pendant la galoute. C'est ça dont parle la Gemara à ce moment-là. Amar Rabbi Yochanan disait, Gedolim sont plus grands. Ah, mais là, il n'y a pas la suite. Alors, que faire? Hein? Il ne faut pas venir à Guimara. Non, Nistader. Eh bien, puisque nous n'avons pas encore la fin de la feuille, là, je vais vous donner quelques indications sur la fête de Pourim. Hein? Voilà. Hein? Un petit cours sur Pourim, comme ça, un petit 10 minutes. Hein, ça vous va? Hein? Voilà. Et la prochaine fois, on va continuer. Il y a une question que je me pose toujours, c'est pourquoi... Bon, vous connaissez l'histoire de Pourim. On ne la connaît pas toujours. Savez, j'ai dit aux Mahonmir, aux élèves, que chacun prenne un petit quart d'heure pour lire la Megillah. Parce qu'il y a des surprises terribles. Vous savez que les élèves, souvent... Je ne parle pas de vous, hein, vous savez. Il y a des élèves qui ne savent pas ce qui s'est passé dans l'histoire de Pourim. Par exemple, le fait que ça s'est fini par un massacre. Combien de gens ont été assassinés, enfin, ont été massacrés plutôt? 75 000. C'est pour ça que ça finit. 75 000 personnes, enfin, nos ennemis, on les a massacrés. Hein? C'était des méchants, évidemment. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a deux jours de fête. C'est pas le même jour à Jérusalem, enfin dans les villes entourées de murailles et dans les villes habituelles. C'est-à-dire, dans, par exemple, à Tel Aviv, on fait le 14 Adar, nous on fait le 15 Adar. Pourquoi ? Parce que dans les villes, dans la ville de Shushan, on a reçu l'autorisation de massacrer un jour de plus. D'accord ? Donc c'est en l'honneur de ce nouveau massacre qu'il y a la deuxième fête de Pourim, celle de Jérusalem. Voilà. Non, c'est important de le savoir, parce que parfois on oublie, on pense que c'est une histoire de palais, l'histoire de Pourim. Ben non, c'est un massacre. Un chouette massacre. Comme ça. Et maintenant, je voudrais revenir à la question fondamentale. L'histoire de Pourim, vous la connaissez, ça a commencé comment ? Ça a commencé par aller mal. Pourquoi ? Parce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman. À cause de ça, Aman a voulu exterminer le peuple juif. Bon. Ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est pourquoi est-ce que Mordechai ne voulait pas se prosterner devant Aman ? Vous avez une réponse, vous ? Pourquoi ? Quel est le problème d'Avodah Zara ? Devant quoi ?
Il devait avoir.
Ah, c'est pas si simple. Alors on va prendre vos deux réponses. D'abord, se prosterner devant un homme. Est-ce que la halakha interdit de se prosterner devant un homme ? La réponse est non. Il n'est pas interdit de se prosterner à un homme. C'est d'une halakha. Vous avez fait du judo, non, quand même ? Il y en a parmi vous qui ont fait du judo ? Personne n'a fait de judo ici ? Ah, le judo, d'accord ? Ouais ? Soit on se prosterne. On se prosterne comme ça, par respect pour le maître, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas de problème. On a le droit de se prosterner devant un homme. Oui ? Oui, mais ça dépend. Alors, ça veut dire, c'est de quel sens ? Si ça a un sens de culte, si c'est un culte, alors ça pose un problème. C'est pas très clair. Alors, si c'est un culte, c'est interdit. Parce que ça amène de l'arbre d'Azara. Mais si c'est simplement une forme de respect, c'est autorisé. Or, le roi avait ordonné de se prosterner devant Aman. Le roi n'avait pas divinisé Aman, puisqu'il était lui, au-dessus d'Aman. Donc, en principe, rien n'empêchait Mordechai de se prosterner devant Aman, à moins que Aman ne se pensait être un dieu. C'est-à-dire, si Aman se divinisait lui-même, alors Mordechai, effectivement, avait raison de ne pas se prosterner devant lui. Mais là, ça, c'est l'opinion de Rachis que vous avez dit. Alors, le problème, c'est comment est-ce que Mordechai connaissait les pensées secrètes de Aman ? Parce que Aman ne disait pas qu'il se prenait pour un dieu. Comment est-ce que Mordechai a su ça ? Allez, faites un effort. Donc il était prophète. Donc on peut supposer qu'il était le roi Kodesh, et donc il savait ce qui se passait à l'intérieur des pensées de Aman, et donc il ne s'est pas prosterné. La deuxième opinion est peut-être plus simple, c'est celle que vous avez amenée, c'est celle de Rabbi Abraham Ben Ezra aussi, qui dit que Aman avait des ornements d'idoles, des ornements idolâtres, comme il y a par exemple chez les hommes d'église, ils ont toujours sur le cou un signe d'idolâtrie, on n'a pas le droit de se prosterner, donc devant eux à cause de ça, parce qu'il y a un signe idolâtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman. Et donc, Mordechai, il l'a fait par souci de Halakha et pas du tout par Ruach HaKodesh. Donc, ça correspond plutôt à l'image que nous avons de Mordechai comme étant un des sages du Sanhédrin. Il y a des Midrashim qui disent que Mordechai était prophète. Il y a des Midrashim qui nous disent que Mordechai était un sage du Sanhédrin. Et puis, il y a une troisième opinion. Comment ? Pourquoi il voulait provoquer quelque chose ? Il a le droit de mettre en danger le peuple juif à cause de ses provocations ? Ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu mal se terminer. C'est ça ? Alors, il y a une troisième opinion qui dit qu'il y a un arrière-plan sioniste à cette histoire. C'est-à-dire que Mordechai, en fait, était originaire de Jérusalem et qu'il était déjà revenu, c'était l'époque du retour, on avait commencé à construire la muraille et les goïms de Samarie empêchaient la reconstruction et ils faisaient de la médisance auprès du gouvernement perse pour empêcher la reconstruction de Jérusalem. Et donc, les Juifs de Jérusalem ont délégué Mordechai à Shushan pour faire du bon travail auprès de la cour, ce qui explique la présence de Mordechai à la cour, justement. et les juifs, enfin les goïms de Samarie, eux ont envoyé Aman. Et donc il y a toute une rivalité pour des raisons sionistes. Et d'ailleurs il y a un midrash très beau qui raconte que lors de la route, pendant le désert, Aman avait mangé toutes ses vivres et Mordechai a donné à manger à Aman à condition qu'il se vende comme esclave. Alors le contrat de vente a été écrit sur le bas de la sandale de Mordechai, et donc à chaque fois que Aman passait, Mordechai